France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 24 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, ils l'ont fait. Les Bleus terminent premier de leur groupe à l'issue de la phase de poule de l'Euro. Match nul de partout face au Portugal grâce à un doublé de Karim Benzema. Prochain adversaire, la Suisse. Ce sera lundi. Les autres titres, Agnès.
Une trentaine de cas de myocardite sans danger constatés chez des jeunes après vaccination contre le Covid. Insultes, invectives, une campagne sous tension en Pays de Loire avant le second tour des régionales. Aux États-Unis, Joe Biden veut sauver des vies en limitant la circulation des armes à feu. Et puis, si vous aimez les expériences scientifiques et les étincelles qui vont avec, rendez-vous dans l'éphémère palais de la découverte.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Il a gagné son costume pour la présidentielle dimanche dernier en faisant près de 42% des voix, bien mieux que ce que prédisaient les sondages. Est-il euphorique ou prudent pour le second ? Xavier Bertrand, président sortant et candidat à sa réélection dans les Hauts-de-France. France sera notre invité à 7h50.
Et on se retrouve à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui deux économistes, le prix Nobel Jean Tirole, le professeur émérite au MIT Olivier Blanchard. Ils ont remis hier à Emmanuel Macron un rapport sur les défis de l'économie de demain. Vous pourrez dialoguer avec eux. 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Un doublé de Karim Benzema et voilà les Bleus en tête de leur groupe. Explosion de joie hier soir à l'issue d'une rencontre étouffante contre le Portugal, de partout, avec un doublé aussi de Ronaldo, toujours meilleur buteur de l'Euro. Et la joie était particulièrement palpable dans le stade Vélodrome de Saint-Denis en région parisienne où les familles ont pu vibrer ensemble au rythme des Bleus. Soirée suivie par Sandrine Etoa Andeg.
À la 45e minute, un partout grâce au pénalty de Karim Benzema et une explosion de joie dans le Vélodrome. Des chaises pliantes volent devant le petit écran géant quand l'avant-centre marque à nouveau au début de la seconde mi-temps.
Le but, il était magnifique, un petit moment d'hésitation, mais il a été validé.
Ça fait plaisir que c'est Karim qui marque, on attendait ce but. On est avec eux, hein. On est avec la France. Hein.
On y croit pour la suite et on va ramener la coupe à la maison. La France sera en finale et on va gagner. Allez les Bleus!
Barbecue, frites et soda au pied des immeubles du quartier Allende. Les habitants revivent et savourent. Se réjouit Lucien de l'association Seven Dreams qui a mis en place cette fan zone.
C'est ça, ça fait vraiment plaisir. On était un peu tous renfermés sur nous-mêmes pendant un petit moment là, donc on a pu organiser ça. On attire pas mal de monde. Voilà, ça crie de partout. Il y a les sourires, il y a le bonheur. Donc,
des familles, des enfants.
Ça fait plaisir. Voilà, on a tout public. Ça donne une autre image du quartier aussi, ça nous fait plaisir pour ça.
Nadia est venue avec ses enfants.
C'était convivial, on a l'impression d'être dans un stade et surtout d'avoir renoué contact avec les gens, ouais, ça faisait très très longtemps. Ouais.
Et sera au rendez-vous lundi prochain pour le match contre la Suisse en 8e de finale.
Lui aussi semblait délivré hier soir. Karim Benzema, qui n'avait plus marqué de but pour la France depuis octobre 2015 et dont les débuts dans cet Euro étaient en demi-teinte. L'avant-centre du Real Madrid se savait très attendu. Première réaction à chaud après la rencontre. Chez nos confrères de beIN Sport.
Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Je pense que tout le monde l'attendait. Il y avait cette pression un peu sur moi de tout le pays, mais je suis un joueur de foot, je suis un professionnel et j'ai besoin de cette pression aussi. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de marquer et en plus on est qualifié. Mais c'est sûr que j'avais envie de marquer dans cette équipe-là parce que je sais que les buts sont très importants dans cette compétition.
Et la France donc jouera contre la Suisse lundi à 21h à Bucarest en Roumanie. En cas de victoire, la France affrontera en quart de finale le vainqueur de la rencontre Croatie-Espagne. Le Portugal s'est aussi qualifié et affrontera dimanche la Belgique. Dernier huitième de finale dans le tableau de la France. Italie-Autriche.
Il est 7h04. Le Premier ministre et le ministre de la Santé attendus Agnès ce matin dans les Landes.
Seul département où la situation sanitaire se dégrade en raison de la circulation du variant Delta, le variant indien, avec un taux d'incidence repassé au-dessus de 50 cas pour 100 000 habitants. Jean Castex et Olivier Véran attendus dès 9h dans les locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mont-de-Marsan auprès des équipes chargées de tracer et casser les chaînes de contamination. Des cas groupés du variant indien ont également été détectés dans le Bas-Rhin et en Guyane. D'où l'importance pour les autorités de poursuivre la campagne de vaccination, même si quelques cas rares de myocardite ont été observés chez des jeunes vaccinés avec Pfizer ou Moderna. Une trentaine de cas en France d'inflammation du muscle du cœur, mais sans danger, Daniel Messager.
Ces myocardites aiguës, inflammation du myocarde, ont été constatées chez des sujets jeunes, plutôt des hommes, moyenne d'âge 28 ans. Des cas spontanés existent dans cette population. Ils seraient deux fois plus fréquents avec ces vaccins, mais on reste sur un nombre faible. Le professeur Gabriel Steg est cardiologue à l'hôpital Bichat.
Si vous imaginez que vous avez le Stade de France avec 100 000 jeunes adultes, ben vous aurez un cas de base de myocardite sans vaccin, deux cas de myocardite avec vaccin, mais vous aurez 1300 cas de Covid et 2% de ces 1300 cas de Covid qui vont faire des myocardites liés au Covid. Et donc, quand on regarde le rapport entre le bénéfice du vaccin et les risques chez les jeunes adultes, il est extrêmement favorable.
D'autant qu'il s'agit de cas bénins et très identifiables.
Les manifestations qui ont été rapportées, c'est essentiellement des formes mineures avec des douleurs dans la poitrine pendant quelques jours, éventuellement un syndrome inflammatoire avec de la fièvre. Les cas qui ont été rapportés sont des cas bénins et une guérison spontanée rapide, sans traitement.
On ignore s'il y a une prédisposition à ces cas. La pharmacovigilance surveille. Il est toujours fortement recommandé de se faire vacciner.
Alors qu'il est justement près de 20 millions de personnes sont complètement vaccinées en France et plus de 32 millions ont reçu au moins une dose. Dans les hôpitaux, on est repassé sous la barre des 10 000 patients Covid, dont 1 500 en réanimation. À trois jours du second tour des élections régionales, la tension est palpable en Pays de Loire. Le scrutin, c'est vrai, s'annonce très serré entre la présidente sortante LR, Christelle Morancé, et l'écologiste Mathieu Orphelin, qui réunit toute la gauche pour le second tour. À Nantes, la bataille électorale a viré à la bataille tout court, Karine Bécard.
C'est la guerre de tranchées. Tout a d'abord commencé par des insultes. De très graves propos homophobes, dénonce le désormais candidat de la gauche, Mathieu Orphelin. Ses équipes étaient en train de tracter mardi matin devant une école et des militants de la liste adverse les auraient donc insultés, allant même visiblement jusqu'à mimer des gestes déplacés. Résultat, une plainte a été déposée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hier, juste avant la tenue d'un débat devant la presse et la télévision locale, la candidate de droite, cette fois Christelle Morancé, vient discuter avec Mathieu Orphelin, tenter de calmer le jeu. Il la reçoit vertement. Christelle Morancé parle de menaces et de violences verbales. Elle s'écroule et se met à pleurer. Résultat, pas de débat et le retour d'une confrontation classique droite-gauche à couteau tiré dans une des régions où le scrutin reste des plus incertains.
Vive altercation hier matin également entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin avant le Conseil des ministres, après les résultats très décevants des candidats de La République En Marche dans les Hauts-de-France. Et puis après les défaillances d'Adrexo dans la distribution des plis électoraux pour le premier tour, près de 10% ne seraient pas arrivés à destination. La Poste va reprendre la distribution de 5 millions de plis supplémentaires pour le second tour. C'est un pavé, au sens propre comme au sens figuré. 500 pages rédigées par 26 économistes français et internationaux, missionnés par Emmanuel Macron sur les grands enjeux à venir, climat, inégalité, démographie. Et un pavé dans la mare avec le retour d'un sujet qui fâche Delphine Simon, la taxe carbone.
Même si ce n'est pas la panacée, cette taxe carbone est indispensable à la transition écologique. Une taxe hautement inflammable, la Convention citoyenne pour le climat n'a pas voulu la relancer. Mais pour le prix Nobel Jean Tirole, sans elle, il y a peu de chances que l'on prenne les bonnes décisions pour le climat. Quant au permis de polluer dont les entreprises doivent s'acquitter, l'idée défendue dans le rapport est de faire en sorte que ces permis couvrent tous les secteurs d'activité, y compris le transport et le logement, jusqu'à présent exonérés. Une réforme à laquelle l'Europe s'est attelée, mais sans attendre, Jean Tirole compte sur l'État pour assumer ses responsabilités. Pour éviter le retour de la contestation sur les ronds-points, il préconise d'indemniser les perdants potentiels, les ménages modestes vivant en zone périurbaine et rurale. De quelle façon ? Aux politiques d'en décider. Pour répondre aux besoins croissants d'électricité décarbonée, le rapport propose de conserver le nucléaire existant en plus des énergies renouvelables. Il ne se prononce pas sur le nouveau nucléaire. À l'État stratège de jouer.
Et les rapporteurs Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, et le prix Nobel Jean Tirole seront tout à l'heure, Nicolas, vous invitez dans le grand entretien à 8h20.
Il est 7h09, c'est un serpent de mer, Agnès, dans le débat politique aux États-Unis. La vente libre des armes à feu.
Dénoncée, on s'en souvient, par Barack Obama après plusieurs tueries, notamment dans des écoles, mais impossible à remettre en cause dans un pays si attaché au port d'armes. Joe Biden a pris la parole hier pour tenter de mettre la pression sur les républicains, alors que les homicides ont augmenté de près d'un tiers l'an dernier. Louis Glory.
Début avril, suite à une série de fusillades, Joe Biden évoquait une épidémie et une honte internationale. Même message lancé hier depuis la Maison-Blanche. Pour sauver des vies, il faut, dit-il, limiter la circulation des armes à feu. Face à l'augmentation générale, cette fois de la violence, il annonce la création de 5 unités destinées à lutter contre le trafic d'armes dans les villes les plus touchées, à défaut d'aller plus loin. Vérification d'antécédents, interdiction des fusils d'assaut et des chargeurs haute capacité. Personne n'a besoin d'une arme qui peut tirer sans coup, à moins que vous pensiez que les serres soient équipées de gilets pare-balles. Un encadrement plus strict auquel les Américains sont en majorité favorables, mais repoussé par les Républicains qui préfèrent associer l'insécurité actuelle, notamment à l'onde de choc née de la mort de George Floyd. Et la main tendue de Joe Biden ne devrait rien y faire. Mes amis, ça ne devrait pas être un problème démocrate ou républicain, c'est le problème de l'Amérique. Montrons au monde, montrons-nous que la démocratie fonctionne. Faute de pouvoir légiférer sur les armes, le président devra s'attaquer à l'insécurité d'une autre façon, car les Républicains ne se feront pas prier pour faire campagne sur ce thème lors des élections de mi-mandat l'an prochain. New York, Loïc Loury, France Inter.
Un record de chaleur en Russie hier avec 34,8 degrés à Moscou, une température jamais atteinte depuis 120 ans selon Météo France. Météo France qui classe un seul département en vigilance orange en France pour des risques de crues. Il s'agit du département de l'Eure. Et puis à Beauvais, le corps du lycéen porté disparu depuis lundi soir a été retrouvé hier. Et on termine par la visite du Palais de la Découverte éphémère. Le mythique musée de la science du rond-point des Champs-Élysées est en travaux jusqu'en 2025. Alors pour patienter jusque-là, une petite structure, judicieusement baptisée les Étincelles, a été montée dans le 15e arrondissement de Paris. Une structure entièrement consacrée aux expériences. Visite guidée avec Sophie Bécherel.
Une structure en bois surmontée de 5 pyramides colorées, telles des oriflammes. Faute de place, impossible d'accueillir des expositions. Les Étincelles n'ont gardé du Palais de la Découverte que son savoir-faire historique, des exposés avec expérience spectaculaire. Camille Fadel, médiateur.
Mettre le feu à un bout de papier sans rien. En fait, juste avec de l'air. Regardez bien, j'y vais. 1, 2 et 3. Et...
Nous sommes ici dans la salle 1 qui va regrouper les activités d'un côté de la chimie, de l'autre côté des géosciences.
Emmanuel Lambert, chef du département des unités scientifiques.
On a 3 salles et un planétarium et on a 7 disciplines en tout.
Les salles accueillent donc 2 disciplines chacune et 40 personnes maximum. Une jauge idéale pour pouvoir interagir avec le visiteur, souligne Bruno Macquart, président d'Univers Sciences.
Vous avez devant vous, non pas des choses à voir, mais vous avez des gens qui vous parlent de science et avec lesquels, évidemment, vous pouvez interagir. Vous rentrez avec des questions, mais surtout, vous pouvez les poser.
Les classiques sont tous là. On fait des maths en jouant, on parle de sciences de la vie avec des fourmis, de l'informatique avec un robot. Le tout dans une ambiance cosy, renforcée par une démarche environnementale qu'a choisi Baptiste Bureau, designer en aménagement intérieur.
À peu près 98%, on va dire, des matériaux qu'on a utilisés, les chaises, aux bancs, en passant par les paillasses, les armoires, sont recyclés. Et la grande majorité proviennent du Palais de la Découverte.
Covid ou pas, il faut penser à réserver.
Un reportage de Sophie Bécherel, les étincelles dans le 15e arrondissement de Paris.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui, l'émouvant face à face de survivants du Bataclan devant des lycéens.